c'est Joseph de la région parisienne. Bon, un petit commentaire sur ton émission d'aujourd'hui et sur ton Christian là de Sochaux, qui vraiment m'a remué les tripes, parce que j'ai eu l'occasion d'entendre pratiquement toute l'émission. Ça m'a remis un petit peu d'équerre avec les gens de la CGT, du moins certains. J'ai bien vécu cette émission et je crois qu'il a tout dit, il a tout compris surtout, et il a tout dit avec les mots qu'il fallait. Bon, ben un grand coup de chapeau à ton Christian, et puis je vous dis merde pour la suite.
Bonsoir Daniel, bonsoir à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Je viens d'écouter comme chaque soir votre émission, et une fois de plus, j'en suis totalement contente, car les personnes qui parlent émeuvent, elles font réfléchir, elles provoquent des interrogations. Enfin, c'est formidable, quoi. Et puis un grand bonjour au dernier intervenant. Je n'ai pas pu retenir son nom, mais c'était le syndicaliste, je pense. Et vraiment, il a dit des choses vraiment, vraiment, vraiment vraies. Enfin, que moi-même, je ressens. Ben voilà, je vous embrasse et puis à demain. Au revoir.
Je viens d'écouter ton émission avec ce gars formidable, cet ouvrier formidable. Il est formidable. Voilà, c'est formidable. J'ai pas d'autre chose à dire. Salut.
Bonjour, Florence, Cantal, Aurillac. Je voulais vous parler de mon papa. Mon papa, ça fait 33 ans qu'il travaille dans une usine qui fait du bois et qui fait notamment des pièces pour Castorama. Il touche exactement en tant que OS 7000 francs par mois. Depuis les 35 heures, il a une prime qui avant faisait le double. Donc touche actuellement une prime de 150 euros. Donc avant, il était à 300 euros et avant les 35 heures. Et maintenant, c'est plus que 150 euros et les 35 heures. Donc 1000 francs par mois, par an de prime. Il faut savoir aussi que mon papa avait travaillé avant et qu'il est actuellement détenteur de 44 années de cotisation. Il va pouvoir bénéficier d'un départ à la retraite anticipée grâce à la nouvelle loi. Et il va percevoir de la sécu après 44 années de cotisation, 3500 francs par mois de retraite. Je voulais aussi vous dire que mon papa, il a des contrôles tous les 6 mois parce qu'il travaille dans le vernissage et qu'il travaille avec du toluène, et que tous les 6 mois, ils ont les prises de sang pour voir s'ils sont pas atteints d'un cancer. Tout ça pour 7000 francs par mois en tant qu'OS. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que la condition ouvrière et le retour sur la condition ouvrière, c'est un retour au 19e encore chez nous dans le Cantal, et que ça serait pas mal de venir faire un tour pour voir qu'il y a encore pire que chez Renault, encore pire que chez Peugeot à Sochaux. Voilà, au revoir et bonne journée.
Ça fait 20 ans que les films français sur les ouvriers, s'il y en a eu 2-3, il y en a peut-être, sont terriblement ennuyeux et ne font que des constats. Et Christian, aujourd'hui, est d'une intelligence, d'une culture, d'une nécessité presque. Et ce débat avec Daniel était magnifique. Le niveau était top niveau métaphore. Donc, il faudrait que ça passe en même temps que le film sur France 5. Voilà ce que vous devrez faire, parce que tout le monde n'écoute pas votre émission. Voilà, c'était juste un petit message de Maria. Au revoir.
Le monsieur de chez Peugeot a quelque chose à vous dire.
Dans ces histoires de médailles du travail, il y a un truc qui est choquant, parce que qu'est-ce que c'est que cette putain de médaille du travail, quoi. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit, machin, un truc, mais enfin bon, on a quand même quelques-uns à jamais demandé notre médaille du travail, quand même. C'est quoi la médaille du travail? On y va pourquoi? On fait allégeance, on enlève notre casquette, oui, bon maître. On est d'accord pour un franc, pour une année de dur labeur. Je sais pas, j'ai pas cette conception-là des choses. J'ai pas envie de vivre sur les souvenirs du travail famille-patrie. J'ai pas envie de vivre ça, moi. Donc, on a encore quelques-uns. Ne jamais revendiquer, jamais demander ni la médaille du travail, mais ni l'enveloppe qui va avec. Bien sûr, c'est le fric. Les gens ne demanderaient pas la médaille.
Elle est importante, l'enveloppe?
L'enveloppe fait, je sais pas, maintenant 100 euros, mais je continue à compter en francs, mais ça fait 2300 balles pour 30 ans, quoi. Je veux dire, c'est la misère. On divise ça par le nombre de mois et le nombre de jours travaillés. On est en train de faire de la prostitution pour 5 centimes, quoi, pour la journée travaillée.
Là, c'est humiliant.
Je sais que on doit être 3 ou 4 seulement personnes sur l'ensemble de l'usine à n'avoir jamais demandé ni la médaille du travail, ni l'enveloppe qui va avec. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui demande la médaille. Mmh. On demande l'enveloppe et la médaille vient par courrier. On se rend pas pour être décoré. Mais l'enveloppe arrive et donc la médaille arrive à la maison. Mais l'important, c'est de pas faire la demande du tout. Parce que c'est en plus une demande volontaire, c'est pas l'employeur qui remercie. Il faut que le salarié aille jusqu'à demander cette médaille du travail. Non, non, mais c'est pourtant ça, et les gens ont tellement besoin de fric qu'à un moment donné, ça en arrive là. Alors bon, c'est terrible.
Ça, peu de gens savent, hein. Elle est partie où la violence, hein. Elle est partie où la violence, hein.
C'est vrai, le monsieur Tchepejo avait quelque chose à vous dire. Christian Corouge a fait un malheur, non, enfin, sinon on en juge, sur le répondeur de la base. J'ai eu beaucoup de messages suite à l'émission d'hier, avec effectivement ce Christian Corouge, donc, qui est un ouvrier de chez Peugeot à Sochaux, 35 ans chez Peugeot, syndiqué CGT, et qui, dans l'entretien d'hier, a expliqué effectivement beaucoup de choses et a réussi à faire passer beaucoup de choses. On le remercie. Il n'était pas seul. Il y avait le réalisateur du film, Patrick Jean. Ce film qui s'appelle Ouvrier, c'est pas la classe, qui, je vous le rappelle, sera diffusé le vendredi qui vient, 7 mai, sur France 5 à 14h55. On était aussi avec Stéphane Beau et Michel Pialou, les auteurs de ce travail, cette enquête sociologique qui s'appelle Retour sur la condition ouvrière. Aujourd'hui, c'est autre chose. Mais ça pourrait être la génération d'après. C'est un film à nouveau. Alors hier, c'est un film qu'on verra pas beaucoup à la télé. Là, c'est un film qu'on verra pas du tout. Comme ça, on va le voir à la radio. Là, vous allez le voir première partie à la radio, et puis vous pourrez le voir. Je vous dirai comment. C'est une distribution alternative, parallèle. Il y a des réalisateurs qui veulent absolument se faire entendre ce qu'ils ont à dire, mais sans passer par les fourches codines de la télé. Le film s'appelle Pas assez de volume. Pas assez de volume, note sur l'OMC, et c'est un jeune réalisateur qui s'appelle Vincent Glenn, et c'est avec lui et surtout son film et surtout les personnages et les idées qui traînent dans ce film qu'on va passer 7 heures ensemble. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, j'y suis. 01 56 40 37 37.
Daniel, c'est encore Pascal Labois et Dominique Adam du collectif de soutien aux Roms de Vitry. Voilà, je vais dire un mot. Parce que nous avons été aidés là, les Roms qui ont été jetés dehors de Thiers, et on est là, il fait nuit, il est 20h, 21h, on est au bord de la Marne, par là, vers Créteil, vers Saint-Maur, je dis pas l'endroit précis, vaut mieux, et puis il y a 40 personnes, ils sont là, sous les arbres, au bord de l'eau, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a même un bébé, et puis ben, tout le monde est dehors. Là, ben, la pluie s'est un peu arrêtée. Demain, il va repleuvoir peut-être, là, il fait froid. La Croix-Rouge et le SAMU social n'ont pas été dépêchés auprès des gens qui ont été jetés à la rue, contrairement à la dernière fois où on avait vu la même situation. Villepin et pire que Sarkozy. Et ils ont rien, ils n'ont pas de couverture, ils ont quelques-uns ou quelques duvets, mais la plupart sont debout avec juste une veste et il fait froid. Et voilà. Et c'est ça, la France.
Oui, bonjour Daniel, Jean-Marie de Nantes. Je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin de ton aide. D'un côté, Sarko me dit que je dois dilapider mon épargne. Et de l'autre côté, d'après la réforme Fillon, je dois de plus en plus épargner pour avoir une retraite décente. Que dois-je faire? J'ai l'impression d'être revenu au Moyen-Âge. Le supplice de la roue. Allez, à bientôt. Salut.
Pourquoi l'émission de Daniel Mermet ne commencerait pas en disant « Bonjour, je suis Daniel Mermet, c'est une émission zone hors AGCS, on en a déjà parlé dans cette émission » et il pourrait en même temps dire que ceux qui ne savent pas ça se renseignent par internet en tapant « zone hors AGCS » par exemple. Il y a des mairies qui se sont déclarées « zone hors AGCS » pour contester un accord de l'OMC. Il y a plein de sites internet également qui se déclarent actuellement zone hors AGCS pour contester également ça. Pourquoi les émissions de radio ne pourraient pas également se déclarer zone hors AGCS ?
Alors voilà, la demande générale de cet auditeur, Là-bas si j'y suis, est une émission hors AGCS aujourd'hui. Là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil et Vincent Glenn pour pas assez de volume, note sur l'OMC.
Ah la la la, Le capitalisme n'est pas malade. Ou tout au moins, le capitalisme est pas tombé subitement malade. Il a simplement poussé jusqu'à son terme la logique dont il est porteur, à savoir tout transformer sur cette planète en objet de profit, tout transformer en marchandise.
Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui protège.
Ah la la la.
Pas assez de volume, pas assez de volume, ces voix. Hein, y a pas beaucoup de monde pour crier tous ensemble. Ouais, bon, y a quoi, une cinquantaine de manifestants. Et encore, selon les manifestants, y en a 20 selon la police. Ça fait pas assez de volume, ces voix. Et puis après, une fois que ces voix ont dit tous ensemble contre l'OMC, le monde n'est pas une marchandise. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Eh ben, y a ces sigles. A, G, C, S, O, S, C, E, O, M, C, A, Mi, F, M, I, etc. Ah, y en a un qu'on comprend, c'est RMI. Celui-là, on comprend. Mais les autres? Eh bien, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile à comprendre. C'est pas facile à expliquer. C'est pas facile à montrer. Et oui, et c'est fait exprès. C'est fait exprès. C'est technocratique. C'est virtualisé. C'est euphémisé. C'est compliqué. En fait, vous êtes trop con pour comprendre. Non mais je vous le dis carrément. Je vous le dis carrément parce que c'est ce qu'on dit. On a de plus en plus de chaînes de télévision, de plus en plus de masse de médias, et quand même, malgré tout, il y a des trucs qui se disent pas, il y a des choses qui se montrent pas. Pourquoi? Parce que le public ne comprend pas, parce que l'auditeur préfère autre chose, parce que le lecteur ne peut pas supporter des articles plus longs qu'un feuillet. Et oui, tout ça, c'est trop compliqué pour le lecteur. En fait, c'est vrai que il y a déjà une première idéologie qu'on pourrait appeler celle du mépris. Or, il y a quand même encore des îlots où bon, on fait confiance. C'est le cas de France Inter, c'est le cas de la Basse, si j'y suis. On se dit, après tout, peut-être que les gens comprendront si nous commençons nous-mêmes par comprendre. Et c'est ce que nous essayons de faire. Et c'est ce qu'a essayé de faire un jeune réalisateur qui s'appelle Vincent Glenn, qu'on n'est pas à son premier coup d'essai, en essayant de comprendre ce qu'est l'OMC. Vincent Glenn n'est pas un spécialiste, il est un généraliste. Or, la démocratie, que lorsque nous votons, nous ne sommes pas des spécialistes. La démocratie, c'est ça, c'est n'importe qui vote au point où il en est de sa compréhension du monde, des choses. Or, aujourd'hui, ceux qui ont créé ces sigles, AGCS, OMC, etc., et qui les remplissent de lois, de décrets, d'accords, de contenus, etc., sont des spécialistes. Et c'est la différence entre cet univers et le nôtre, celui de la généralité, celui des citoyens, de ceux qui votent, de ceux qui veulent participer aux choses sans être des spécialistes. Alors, Vincent Glenn est parti comme un profane pour essayer de comprendre. Et c'est ce qu'il raconte dans ce film, pas assez de volume. D'abord, pourquoi pas assez de volume? Pas seulement à cause de ces voix pas assez volumineuses, pas assez nombreuses, pas assez importantes, mais parce que un tout petit réalisateur avec sa petite caméra comme ça pour obtenir des fonds, les fonds nécessaires pour la production d'un film, s'est vu répondre, vous ne représentez pas assez de volume, ce qui a été nécessaire et suffisant à ce qu'il se lance dans cette aventure que nous retraçons avec lui aujourd'hui et Guy Vanctil jusqu'à 18h sur France Inter. Là-bas, si j'y suis, pas assez de volume.
Et dos énergies da terra periferia, samba no sabão, no barracão. A força da liberdade, favela free.
África zumbi.
Viu que conta a verdade, favela free.
África zumbi.
A força da liberdade, favela free.
África zumbi.
Viu que conta a verdade, favela free. Vai que vai no improviso, sangue bom, mantenha o clima. Em volta da fogueira, eu mando a minha rima. Vicente está filmando, maluco, eu vou além. E o nosso trem passa por ali, não espera por ninguém. Mantenha o clima, eu vou que vou. Ah, sim, sigo no flow, se é pra firmar, então firmou. Maloqueiro da periferia de São Paulo, assim que é. No improviso junto com meu mano André, vai que vai. Um, dois, três, quatro, eu sou um pesado. Maloqueiro vindo do Maria Sampaio. Represento o zumbi, se africar até amanhã. Um, dois, três, quatro, spike de assassão, vai, vai.
Moi, je me définis comme un artisan. Je réalise des films. Alors, réalisateur, ça veut dire quoi?
Intermittent du spectacle.
Ah, intermittent du spectacle. Donc, sponsorisé par la société Acedic et ça.
Oui, parce qu'il faut dire que ton film, ton documentaire, qui est vachement ambitieux, qui s'est, dont la, le tournage s'est étalé sur 3 ans.
Ouais.
C'est pas une multinationale qui l'a financé.
Non, c'est un regroupement de plusieurs petites structures de production. Qui sont tous soupçonnables de ne pas faire assez de volume, c'est-à-dire de ne pas être des sociétés qui génèrent suffisamment de profits, donc qui, du point de vue des financiers et des banques en particulier, ne sont pas viables. Donc c'est comme ça que le film a pris ce titre, pas assez de volume, c'est le motif en 4 mots qui a permis à la banque, la BNP pour pas la nommer, qui ont commencé par virer tous les petits, dont nous, avec ce motif que l'on ne fait pas assez de volume. Ça veut dire on ne fait pas assez de films, ça veut dire on n'est pas assez intéressant sur le plan économique, on n'apporte pas assez d'argent sur le compte, effectivement. C'est ce qu'ils nous ont dit, ni plus ni moins. Maintenant, vous prenez vos clics et vos claques, c'est bon, on a fait le tour avec vous, vous ne nous intéressez pas. Voilà. Bon, le film s'appelle comme ça...
Pas assez de volume. À l'époque, ça a compliqué les choses de ne plus avoir de banque, mais par contre, plus tard, je me suis dit que ça ferait un bon titre pour mon film.
Alors voilà, le voilà parti de Vincent Glenn. Pas assez de volume, notes sur l'OMC, un documentaire pédagogique, ludique, créatif, citoyen et critique, comme dit Aline Chambras dans Politis. C'est vrai ce que disait l'auditrice tout à l'heure, que des films sur le monde ouvrier, on en a vu beaucoup et on s'est beaucoup ennuyé. Là, c'est pas le cas du tout et pourtant, c'est pas un sujet facile. D'ailleurs, je vous signale qu'il est actuellement à Paris, à l'espace Saint-Michel et qu'il y a ce soir une projection en présence du réalisateur lui-même.
Comme beaucoup de Français, l'OMC, j'en avais surtout entendu parler depuis le démontage du McDonald's de Millau. Mes questions étaient celles que peut se poser le non-spécialiste. Depuis quand, par qui, pour qui et au nom de quoi une telle institution a-t-elle été mise en place jusqu'à devenir cet arbitre du commerce mondial redouté? Comment se peut-il par ailleurs qu'une institution ayant des conséquences aussi directes sur les législations de tous ses pays membres puisse rester aussi en marge des masses-médias et des débats politiques nationaux? J'ai souvent entendu répondre « parce que c'est compliqué » et que ça n'intéresse pas grand monde. L'OMC, c'est là, à Genève, au bord du lac Léman. Son siège s'est établi dans les anciens locaux du Bureau international du travail, le BIT. Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec le directeur général de l'époque, le néo-zélandais Mike Moore.
Globalisation is not new. It's been going for centuries.
La globalisation, c'est pas une nouveauté.
Always been happening.
Ça a toujours existé.
It went through an imperialistic stage.
Il y a eu une phase impérialiste avec la colonisation. C'était mené de façon impitoyable par des entreprises privées et des empires.
Now it's done in a different way.
Maintenant, ça se passe différemment.
The question is how do you manage that?
La question, c'est comment gérer tout ça.
Make it fairer.
Rendre ça plus équitable sous l'autorité du peuple à travers la
gouvernement.
Et voilà à quoi sert l'OMC.
There are those that protest who somehow believe if you get rid of the WTO, you get rid of globalization. Well, that's not so.
Et vous savez, ceux qui manifestent en pensant qu'en se débarrassant de l'OMC, ils vont se débarrasser de la globalisation, c'est pas le cas.
It's like saying if we get rid of the Red Cross, we'll get rid of war.
C'est comme dire qu'en se débarrassant de la Croix-Rouge, on empêcherait les guerres.
If we get rid of the United Nations, we'll get rid of disputes.
Ou qu'en éliminant les Nations Unies, on éliminerait les conflits.
Pour une institution que j'imaginais mal accessible, j'ai au contraire été surpris par la disponibilité des responsables de la communication. Voyant bien par ailleurs que j'étais assez ignorant des principes et du fonctionnement de la maison,
Ils ont rapidement mis à ma disposition des documents vidéo, comme par exemple...
For 47 years, GATT maintained order in the international economic arena through its rules. As a result of 8 successive rounds of multilateral trade negotiations, it successfully promoted economic growth through the gradual opening of economies around the world.
Voilà comment comment Mike Moore, qui était le directeur général de l'OMC, présentait les choses à l'époque. On peut pas lui donner tort. On se dit qu'il est nécessaire, effectivement, qu'il y ait une instance internationale pour juger, pour réguler les échanges commerciaux. Sauf que la question est qui fait la règle dans le poulailler. Vous connaissez l'histoire du libéralisme. C'est le rapport qui peut exister entre le renard libre entrant dans un poulailler libre. Or, qui fait la loi ? Est-ce que c'est les poules du poulailler ? Est-ce que c'est le renard qui entre dans le poulailler ? Question.
Si on prend les choses un petit peu du départ, l'OMC, depuis Seattle, s'en souffre, a une mauvaise réputation, qui est en partie fondée d'être quelque chose qui a été entièrement mis en place et dessiné par les pays industrialisés pour les intérêts des pays industrialisés. Et l'ensemble de ces critiques, effectivement, a une visibilité médiatique, notamment à Seattle, puis en France avec le démontage du McDonald's de Millau, où tout d'un coup, il y a eu une sorte d'éclairage médiatique. Voilà, et on parlait plus des manifestants, on parlait plus des casseurs, on parlait plus des manifestations violentes. Moi, j'ai entendu 20-30 fois des actualités parlant de Seattle et parlant de la violence des manifestants, sans chercher jamais effectivement à creuser le pourquoi effectivement. C'est-à-dire on parle des faits, donc on parle quasiment jamais des causes. Et j'ai essayé de savoir ce qui motivait les acteurs de l'OMC. Dans quelle situation ils étaient ? Est-ce qu'ils étaient capables de parler d'une philosophie de l'OMC ? Est-ce qu'il y en a une ? Donc je leur ai posé cette question à chacun. Et c'est là qu'on a cette réponse de Paul-Henri Ravier.
Paul-Henri Ravier, je suis directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce. Je suis l'un des 4 directeurs généraux adjoints. Je suis un fonctionnaire français. J'ai passé l'essentiel de ma vie professionnelle, c'est-à-dire près de 25 ans maintenant, au ministère français de l'économie et des finances, où je m'occupais de questions de commerce extérieur. J'ai toujours été dans le commerce extérieur et ma vie professionnelle s'est toujours déroulée dans ce sujet. L'OMC est au service du libre-échange. Ceci est doit être rappelé en permanence. L'OMC repose sur l'idée suivante, que le développement des échanges se fait à travers l'abaissement des obstacles aux échanges et que le développement des échanges est bon pour la croissance économique. Il est bon pour la croissance économique des pays développés, mais il est surtout bon pour la croissance économique des pays en voie de développement.
Donc, si j'en crois les services de communication de l'OMC et ses dirigeants. Premièrement, les consommateurs y gagnent. Deuxièmement, le libre-échange aussi. Qu'est-ce que j'ai là-dessus ? Voilà.
Et le prix Nobel d'économie 2001, l'Américain Joseph Stiglitz s'en est pris à l'OMC directement, considérant que ses décisions étaient égoïstes, sans aucun regard pour les pays en voie de développement.
The WTO, the World Trade Organization,
L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est une organisation qui a été créée en 1995.
It was created out of the recognition that
sa création vient du fait que les pays du monde sont de plus en plus en relation, que les échanges commerciaux de biens et services ont énormément augmenté. Donc on avait besoin de règles garantissant que le commerce s'organise sur des bases équitables. Malheureusement, la réglementation qui a été adoptée a surtout été le choix de pays industrialisés qui voyaient d'abord leurs intérêts. Par exemple, la nouvelle réglementation issue de l'Uruguay Round qui a abouti en 1994 à cette nouvelle réglementation de l'OMC était totalement injuste.
Just like any game has to have rules.
De même que tout jeu doit avoir ses règles, là, c'est l'OMC qui fixe ses règles. Mais comme le savent tous les joueurs, celui qui fixe les règles d'un jeu désigne le vainqueur.
And unfortunately, the way the WTO has been set up, the way
et malheureusement, dans la structure même de l'OMC, de moins à son origine, les règles favorisent les pays industrialisés
at the expense of the less developed countries.
Au détriment des pays moins développés.
Poulet, numéro 728120. Je t'aime.
Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on s'est rendu compte que non seulement les vaches devenaient folles, mais que ça n'épargnait pas non plus les humains, alors l'Europe a décidé d'interdire l'usage de farine animale pour nourrir les animaux. Après cette interdiction, des quantités industrielles de poulets, initialement destinés à être transformés en farine, sont venus se rajouter sur la liste des excédents agricoles européens. Qu'allait-on en faire? La réponse coula de source, il fallait bien trouver des clients. Et d'un certain point de vue, le Sénégal, par exemple, tombait bien. En tant que membre de l'OMC, il n'avait pas le droit de limiter ses importations, et l'industrie agroalimentaire européenne pouvait donc tout à fait légalement y écouler une partie de ses stocks. Transport compris, les poulets européens ont pu se vendre en moyenne à la moitié du prix pratiqué par les éleveurs africains sur leur propre marché. En 4 ans au Sénégal, les importations de poulets sont passées de 50 tonnes à plus de 10 000 tonnes. Pendant ce temps, les deux tiers des fermes avicoles sénégalaises ont fermé.
Comment on fait, d'ailleurs, pour aller voir l'OMC? Parce que elle a un siège à Genève, un magnifique bâtiment qu'on voit dans le film près du lac. Mais comment on va taper à la porte de l'Organisation mondiale du commerce?
Quand j'ai commencé ce film sur l'OMC, j'avais évidemment cette appréhension de me dire, si ça se trouve, ils vont même pas donner suite à nos demandes. Et puis à un moment, justement, enfin, à partir de Seattle, à partir de tout ce qui a été proposé comme pensée critique et comme manifestation sur ce que représente l'OMC, à partir de là, il y a une sorte de stratégie de communication d'ouverture.
Voilà, ils souffraient d'un déficit de communication.
Voilà, donc ne dites pas que c'est pas possible d'y entrer, c'est absolument possible. Et même quand on est des tout petits à qui la banque vient de dire « vous faites pas assez de volume, allez-vous-en ». Donc l'OMC nous a pas dit « allez-vous-en ». Ils nous ont accueillis, et quand je dis qu'ils nous ont accueillis, ça a duré, ça s'est espacé sur 3 ans de tournage. J'ai rencontré l'ancien directeur général Mike Moore, et le nouveau, qui est un Thaïlandais qui s'appelle Supachai Panichpakdi. Donc j'arrivais en leur disant, dites-vous bien, à chaque début d'entretien que je faisais avec eux, je leur disais, vous vous adressez à moi comme si j'avais entendu parler de l'OMC avant-hier. Ils n'avaient pas l'habitude de ces questions-là. Ils étaient systématiquement, soit dans des discussions justement hyper techniques. Qu'est-ce que vous allez faire sur le chapitre de l'acier dans le conflit qui oppose les États-Unis à l'Europe? Qu'est-ce que vous allez faire concernant la fin des subventions de l'Europe à ses agriculteurs, les subventions à l'exportation, etc. Ou bien répondre à des critiques. Quand est-ce que vous allez arrêter de plonger les pays pauvres dans encore plus de pauvreté? Quand est-ce que vous allez... Bon, etc. Et rarement, ils étaient dans une position où on leur disait, dites-nous, sur le fond, philosophiquement, qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est bien, l'OMC? Quelque chose qui les surprenait un peu. Supachai m'a même dit à la fin que c'était la plus longue interview qu'il ait jamais faite.
Trois quarts d'heure. Donc c'est pas quelqu'un qui est très souvent sollicité pour s'expliquer en longueur sur pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il fait.
Jamais.
Voilà, et c'est ce jamais qui bloquait notre réalisateur Vincent Glen, d'où longue conversation évidemment sur le fond. On nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. On nous a dit il n'y a pas d'alternative. On nous a dit c'est comme ça et pas autrement. On nous a parlé de l'impossible, enfin de la fatalité, de choses sur lesquelles il n'y avait plus de réflexion. D'ailleurs c'était la fin de l'histoire. Et quand même on voudrait savoir pourquoi, tout simplement pourquoi.
I agreed with a lot of those who say the trading system is not just.
Je suis d'accord avec ceux qui disent que le système du commerce n'est pas juste.
That the rich countries spend $1 billion a day subsidizing their food.
Que les riches dépensent 1 milliard de dollars par jour pour subventionner leur agriculture aux dépens des pays pauvres.
Give you some figures.
Et je vais vous donner un exemple.
Mongolia.
La Mongolie.
And Norway.
Et la Norvège.
Both pay the US
About $25 million in tariffs.
Versent tous les deux aux États-Unis près de 25 millions de dollars en droits de douane.
But Mongolia only exports about $140 million worth of products to the US, and Norway exports over $5 billion.
Mais la Mongolie n'exporte vers les États-Unis que l'équivalent de 140 millions de dollars, alors que la Norvège exporte plus de 5 milliards de dollars.
This is unjust.
Et ça, c'est injuste.
And so of course I agree.
Et bien sûr, je vous dirai pas le contraire.
Now we the question is how do you fix
it? La question c'est comment on répare cette injustice.
You have to fix it in a negotiation.
Ça se fait avec des négociations.
And now we have a negotiation.
Et nous menons ces négociations.
Ces accords de l'OMC, ça sert à qui? À quels intérêts? La réponse, c'est très simple. Ça sert aux transnationales, aux très grandes banques,
Suzanne George,
aux très grandes compagnies d'assurance, etc.
Nous sommes ici au cours d'un débat avec Suzanne George, qui a, entre autres, écrit ce livre.
C'est vraiment parce que les très grandes compagnies s'apercevaient au milieu des années 80 qu'ils avaient besoin d'un cadre qui leur permettrait d'investir librement et d'aller librement dans tous les pays du monde. Et c'est eux qui ont fait naître l'OMC, c'est eux qui donnent aujourd'hui, à travers des quantités de lobbies, leurs instructions aux négociateurs.
Il faudrait une organisation mondiale du commerce qui impose le respect des droits de l'homme, qui mette des limites aux grands pollueurs.
Donc là, nous sommes avec Agnès Bertrand.
Mais l'OMC est exactement l'inverse, puisque tous les principes de l'OMC mettent le droit à faire du commerce de toutes les activités humaines et de toutes les ressources de la planète au-dessus des autres droits. Et l'expression « le moins restrictif possible au commerce » revient une cinquantaine de fois dans les accords. Et il y a même un accord qui s'appelle l'accord OTC sur les obstacles techniques au commerce. Donc, la priorité de l'OMC étant l'augmentation du commerce mondial, tout est examiné selon cette finalité.
Notre folie s'explique en effet qu'il faut quasiment injecter le virus de la démocratie.
Alors vous suivez, nous suivons Vincent Glenn qui découvre peu à peu de propos en commentaire, d'analyse, d'erreurs en essai aussi. Comment tout cela fonctionne? C'est évidemment capital, puisque pas parce que c'est seulement du capitalisme ou d'une nouvelle forme du capitalisme, mais parce que ça regarde nos vies quotidiennes, aussi bien dans le travail que dans l'environnement. Les dégâts sociaux sont évidents, les dégâts environnementaux ne le sont pas moins.
C'est un film où il y a beaucoup de discours, et c'est pour ça qu'il y a aussi des respirations, c'est pour ça qu'il y a aussi des embardés, et on voit la confrontation entre deux types de discours. Celui qui nous explique comment il faut pas s'inquiéter, le discours des responsables, Mike Moore, et on a après des chercheurs, des intellectuels qui tout de suite nous parlent de mise en perspective, de recul, de double langage, et c'est là où ça devient difficile à suivre, c'est là où ça devient compliqué.
D'abord, effectivement, ce qui est souvent mis en avant, c'est vous pouvez pas comprendre, c'est trop compliqué. C'est une affaire d'experts. Et effectivement, si on se plonge dans les textes juridiques sur notamment le rapport de l'Uruguay Round que j'ai à la maison, c'est strictement illisible pour des non-spécialistes. Donc, une façon pour moi d'avoir essayé de comprendre quelque chose derrière ces textes juridiques, c'était d'essayer de saisir l'esprit. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune décision gouvernementale qui ne soit pas faite au nom de quelque chose. Il y a tout, et ce au nom de quelque chose, c'est ce qui est la plupart du temps escamoté dans un discours technique. Je pense par contre qu'on peut tout faire pour avoir, non pas de l'objectivité, mais de l'honnêteté, de se faire un jugement, parce qu'on croise un certain nombre de regards et de compétences, une sorte de dialogue à plusieurs voix, avec d'emblée, dans mon cas, le fait de refuser complètement le principe du duel. Dès lors qu'on rentre dans une idée qu'il faut établir un duel, on rentre dans cette vision binaire du monde. Voilà pourquoi moi j'ai organisé ce film plutôt comme une circulation de paroles entre des individus effectivement qui sont pas du tout forcément dans le même camp, mais qui ont pour autant des choses à échanger et des arguments à échanger. C'est tout. C'est effectivement fondamentalement des questions philosophiques en fait qui sont posées, parce que les questions techniques encore une fois, la plupart du temps servent à masquer le vide de philosophie, le vide de pensée même.
Mais comme justement je n'étais toujours pas sûr de bien comprendre ce qu'il y a derrière cette notion de libre-échange, je suis allé voir l'économiste René Passet.
Dans le capitalisme ancien modèle, il a pu y avoir des moments de convergence d'intérêts entre tous les acteurs de l'économie. C'est ce qu'on a appelé en particulier les 30 glorieuses ou l'économie fordiste. C'est l'époque où les grands chefs d'entreprise comme Ford ont compris que s'ils voulaient faire des profits, il fallait qu'ils distribuent les salaires. Et alors, de l'autre côté, les syndicats se sont vite aperçus aussi que s'ils voulaient des salaires élevés, il fallait que les patrons puissent réaliser des profits élevés et investir abondamment. Donc il y a eu une sorte de règle du jeu. Alors, ne transformant pas ça en petite histoire à l'eau de rose, ça n'a pas baigné dans l'huile, ça s'est pas passé tout seul, il y a eu des conflits, il y a eu des luttes très dures, des luttes sociales, mais luttes sociales dans lesquelles, objectivement, il y avait quelque part des zones de convergence d'intérêts et on devait finir par s'entendre et on s'entendait. C'est ce qu'on appelait les cercles vertueux de l'économie fordiste ou des 30 glorieuses. Quand c'est le capital et le dividende qui sont au cœur du pouvoir, les choses changent complètement parce que le dividende ne se nourrit d'aucun des autres revenus. Au contraire, les autres revenus sont toujours prélevés sur la partie qui lui reviendrait. Et donc, on va retrouver ici tout le discours qui est celui de l'économie actuelle. Donc, il y a trop de salaires. Il faut flexibilité du taux de salaire, flexibilité de l'emploi pour réduire la masse salariale. Il y a trop de protection sociale parce que c'est prélevé sur ce qui reviendrait au capital. Il y a trop d'États, trop d'impôts, trop d'États. Faut réduire les impôts. Il n'y a plus de cercle vertueux. Cette économie est une économie de cercle purement vicieux. Le capital contre tous les autres, le revenu du capital contre tous les autres. Et il n'y a pas de zone d'entente possible. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent, un dernier mot, par libération, quand on lit attentivement les documents du FMI et autres organismes internationaux? Ce qu'ils désignent par libéralisation, c'est d'abord et en tout premier lieu la libération des mouvements de capitaux, et en second lieu, mais très loin derrière, la libération des mouvements de marchandises et de services, et enfin, pas du tout, les mouvements d'hommes. Les hommes, on les bloque aux frontières lorsque on veut limiter l'immigration, lorsqu'on veut aussi les gêner dans leur tendance à les manifester contre l'ordre dominant.
Madame, Monsieur, bonsoir. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche, marqué par la grande manifestation contre le projet de réforme des retraites, un immense cortège de militants syndicaux, de fonctionnaires, de salariés privés ou encore d'enseignants.
Le capitalisme n'est pas malade. Ou tout au moins, le capitalisme n'est pas tombé subitement malade. Il a simplement poussé jusqu'à son terme la logique dont il est porteur, à savoir tout transformer sur cette planète en objet de profit, tout transformer en marchandise. Et donc, il est en train de réaliser son rêve le plus dément, c'est-à-dire faire que tout ce qui bouge sur la planète, à la fois les richesses matérielles, mais aussi les connaissances humaines, eh bien, deviennent des marchandises.
On vient d'entendre l'économiste Jean-Marie Arribet. Celui qui prend la parole juste après lui est le musicien Ray Lema.
Je voulais juste, pour répondre sur un plan, parler des difficultés que nous avons parfois pour expliquer simplement le concept de développement tel que vous en parlez, vous. Et moi, par exemple, je parle Lingala au Congo. Vous savez que dans ma langue, Lingala, le verbe « avoir » n'existe pas. Le verbe « avoir », c'est « être avec ».
began talking about body counts.
Pendant la guerre du Vietnam, on a commencé à parler de décompte de corps.
Not people who died, but body counts.
On ne parlait pas de ceux qui étaient morts, mais des corps.
Subsequently, we did a lot of bombing from 30,000-40,000 feet high.
Puis on s'est mis à larguer des bombes à 10 ou 12 000 mètres d'altitude.
The airplane pilots had no sense of the destruction and death they were bringing about.
Ce qui fait que les pilotes de ces bombardiers ne se rendaient pas compte des dégâts et des morts qu'ils causaient.
Similarly, in economics, we talk about things like unemployment rates.
C'est pareil en économie, on emploie des formules comme le taux de chômage.
As if these are just body counts, just numbers.
Comme s'il s'agissait que de décompter les corps, rien que des chiffres.
Not realizing that when you throw somebody into unemployment, it really destroyed.
En oubliant au passage qu'en mettant une personne au chômage, ça détruit complètement toute la vie d'une famille.
It has enormous social consequences.
Cela peut engendrer des drames sociaux considérables.
And somehow that gets left out when you say, well, the unemployment rate increased from 3% to 15%. It sounds just like in any other number.
On oublie trop facilement cet aspect des choses quand on dit, eh bien, le taux de chômage est monté de 3 à 15%. Ce n'est plus qu'un chiffre parmi d'autres.
But that really dehumanizes what is really going on.
Mais c'est vraiment une façon de déshumaniser la réalité.
I don't accept we're being dehumanized.
Non, je pense vraiment pas qu'on soit déshumanisé.
What is the economy?
Qu'est-ce que c'est l'économie?
The economy is consumers.
L'économie, c'est des consommateurs.
What are consumers? But working people and ordinary people who want things.
Et les consommateurs, c'est quoi? C'est des gens ordinaires qui veulent acheter.
And if you look at the last 25-30 years, technology is liberating the children. They're talking to each other.
Et si on regarde ce qui s'est passé ces 25-30 dernières années, la technologie émancipe les enfants qui communiquent entre eux.
Is this a bad thing? I think in the end it's a good thing.
Est-ce que c'est si mal? Moi, je trouve au contraire que c'est une bonne chose.
There are downsides.
Bon, il y a des inconvénients.
Many people get killed by motor cars. Aeroplanes kill.
Beaucoup de gens meurent dans des accidents de voiture. Les accidents d'avion aussi tuent des gens.
But on balance, I think the motor car and the aeroplane were a good invention.
Mais tout compte fait, je crois qu'on peut dire que la voiture et l'avion sont de bonnes inventions.
Although there are tragedies.
Même s'il y a des tragédies.
I don't think we want to go back.
Je pense pas que quiconque veuille retourner en arrière.
Comment une société qui n'a historiquement jamais été aussi riche et productive a-t-elle pu en venir à rogner sur ses impôts, comme on rogne sur le nombre d'infirmières dans un hôpital, sur le nombre de professeurs dans un collège, ou sur le nombre de vaccins donnés à tous? Il paraît que ça s'appelle la guerre économique, que c'est mondial et que ça s'attrape facilement.
L'OMC ne crée pas la guerre économique qui préexiste en dehors d'elle. Mais est-ce que, en face de cette situation, la politique à mener est une politique de libéralisation extrême des échanges et des mouvements de capitaux, ou est-ce que c'est au contraire une politique de contrôle plus étroit? Alors, libéralisation extrême, mais je regrette que les économistes, en France notamment, aient perdu, totalement oublié, le sens du message d'un de mes aînés, de mes maîtres, François Perroux, qui avait une analyse très approfondie des effets de domination entre nations et des inégalités, et qui montrait bien que la libération des échanges entre inégaux, c'est ce qui permettait aux plus puissants d'absorber le plus faible.
On est passé dans le film de Vincent Glen, pas assez de volume, Vincent Glen, 36 ans, réalisait ce film. Et c'est vrai que tout au long de son film, il y a tout une sorte de plaisir de comprendre, une jubilation à comprendre, un plaisir à comprendre et à élucider et à faire partager au fil du film ses découvertes.
Fin 2001. Plus de café, plus une thune pour continuer le film, et la conférence interministérielle de Doha au Qatar qui commence. Cette conférence, c'est l'instance suprême de décision de l'OMC. Elle se réunit une fois tous les deux ans. Avant Doha, la dernière en date était celle de Seattle, où en 1999, l'OMC avait connu son premier gros échec. Au Qatar, cette fois, les ministres du commerce de tous les pays membres se retrouvent pour lancer le round du développement. Je n'avais malheureusement ni argent ni visa pour y aller, alors j'ai enregistré les journaux télévisés de toutes les chaînes nationales pendant les 4 jours du sommet.
Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, à l'ouverture de la 4e conférence de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, à Doha, au Qatar, avec déjà des manifestations anti-mondialisation un peu partout dans le monde.
Moins des violences de Seattle, l'ouverture de la 4e conférence de l'Organisation
du sommet de l'OMC à Doha, au Qatar.
Ce pays qui a pris comme principe de refuser la plupart des visas aux anti-mondialistes.
Face à la contestation anti-mondialiste,
la colère des anti-mondialistes.
Plusieurs milliers de personnes ont défilé pour réclamer leur rejet de la mondialisation.
Dans un hôtel Sheraton, transformé en véritable bunker, le négociateur européen reste persuadé que la mondialisation profite aussi aux pays pauvres.
On importe 40 milliards d'euros de textiles dans l'Union européenne. Ils veulent pouvoir nous en vendre plus. Eh bien, soit. Si nous leur vendons plus d'Airbus et plus de services téléphoniques, ils nous vendront plus de t-shirts. Si nous leur vendons plus de bateaux, de croisières, et il y en a un certain nombre qui ont les moyens, eh bien, ils nous leur achèteront plus de pétroliers.
Alors, je n'ai pas pu rencontrer le commissaire Lamy en tête-à-tête, mais je suis allé l'écouter à plusieurs reprises. D'abord ici, à l'OCDE, lors d'une conférence de presse.
Excusez-moi.
Oui, merci. Alors, l'OCDE, pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas les idées précises, il s'agit du club des nations les plus industrialisées. Son siège est au château de la Muette, à Paris.
My message.
Mon message.
My European domestic.
Mon mandat national européen.
On the idea that trade.
C'est l'idée que l'ouverture des marchés est une bonne chose pour tous. Et même pour ceux qui perdent leur emploi à cause de cette ouverture des marchés, à condition de suivre les règles.
Alors excusez-moi, mais la première fois, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu.
L'ouverture des marchés est bonne pour tous, même pour ceux qui perdent leur emploi à cause de l'ouverture des marchés, à condition de suivre les règles. Et la cohérence de ce message est que oui, nous devons ouvrir les règles du marché, mais cela doit respecter les règles.
Ok.
Ok. Respecter les règles qui garantissent les ouvertures de marché. De l'autre côté de l'Atlantique, avant même l'existence de l'OMC, un autre traité international a été conçu pour ouvrir les marchés. L'accord de libre-échange nord-américain, ou ALENA, qui a été signé en 1994 entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Grâce à ce traité, par exemple, les haricots rouges en boîte exportés des États-Unis arrivaient moins chers au Mexique que ceux produits par les paysans locaux. Le jour où le traité ALENA est entré en vigueur a été également le début de l'insurrection zapatiste des paysans indiens du Chiapas.
Pour parler comme des zapatistes des chemins de la dignité, je vais vous raconter une histoire qui s'appelle L'autre joueur. La voici. Un groupe de joueurs est absorbé par une partie d'échecs de haute volée. Un indigène s'en approche, le regarde et leur demande à quoi il joue. Personne ne lui répond. L'indigène s'approche de l'échiquier et contemple la position des pièces. L'air sérieux et concentré des joueurs, l'attitude attentive du public, il répète sa question. Un des joueurs prend la peine de lui répondre. C'est quelque chose que tu ne pourrais comprendre. C'est un jeu pour des gens importants et intelligents.
El indígena guarda silencio y continúa observando el tablero y los movimientos de los contrincantes.
L'indigène reste silencieux et continue d'observer l'échiquier et les mouvements des pièces.
Después de un tiempo,
après un moment,
aventura otra pregunta.
Y lors, une autre question.
¿Y para qué juegan si ya saben quién va a ganar?
Et pourquoi jouent-ils s'ils savent qui va gagner?
El mismo jugador que le respondió antes
le
dice,
même joueur lui répond, tu ne comprendras jamais.
Esto es para especialistas.
C'est pour les spécialistes.
Está fuera de tu alcance intelectual.
C'est hors de tes capacités intellectuelles.
L'indigène no dice nada.
L'indigène ne dit rien.
Sigue mirando y se va.
Il continue de regarder puis s'en va.
Al poco tiempo,
et revient
en
amenant quelque chose.
Sin decir más,
sans un mot,
se acerca a la mesa de juego,
il s'approche de l'échiquier
y pone en medio del tablero
et pose
una bota vieja y llena de lodo.
En plein milieu une botte couverte de boue.
Los jugadores se desconciertan y lo miran con enojo.
Déconcertés, les joueurs le regardent furieux. L'indigène
sonríe maliciosamente mientras pregunta, jaque.
Fait un sourire sardonique tout en disant échec et mat.
Declaración de la selva lacandona. Hoy decimos, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria.
Nosotros vemos las siguientes cosas.
Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida.
¡Qué casting aujourd'hui!
Le sous-commandant Marco, Suzanne George, Agnès Bertrand, Joseph Stiglitz, René Passet, Ramon Chao qui traduisait le sub, Raoul Marc Génard, Pascal Lamy, Mike Moore, qu'il ne faut pas confondre avec Michael Moore, et David Page de RFI qui a eu la gentillesse de prêter sa voix et sa traduction, aussi le musicien André Mainviel. Voilà, c'était un reportage et un mixage de Guy Van Til. Alors je rappelle que le film Passé de volume de Vincent Glen est distribué par Cohérence, c'est une distribution alternative, et il est ce soir, il est au cinéma à l'Espace Saint-Michel actuellement à Paris, et ce 6 mai Vincent Glen sera ce soir à 22h avec son film, c'est 7 places Saint-Michel, et puis le film est distribué donc par Cohérence. On en reparlera. Plus d'informations sur le site là-bas si j'y suis, en allant sur franceinter.com, en un seul mot, franceinter.com. Vous avez des tas de précisions, des bouquins et la distribution des films techniques. Aujourd'hui, Carole Sandevoix et Christophe Goudin, Yann Chouquet, Pascal Yello et Christophe Imbert. C'est l'équipe de la basse, j'y suis. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et génial. Hier, il n'y avait pas de pub, mais aujourd'hui, vous êtes gâtés.